Bonjour et bienvenue dans ce 13e numéro de FileSecu, l'émission qui parle de cybersécurité et de ses répercussions concrètes dans votre quotidien. Je suis Léa et je serai votre guide tout au long de cet épisode intitulé « L'attaque du voisin de Wi-Fi invisible ». Et je te salue très chaleureusement, mon cher Charlie, notre explicateur en chef, avec qui j'ai la joie de vous présenter cette émission depuis un bon moment déjà.
Salut Léa, ravi de te retrouver pour ce premier épisode de 2025. On en est déjà à notre 14e année.
Alors, quel est le programme de cet épisode ?
Eh bien, nous allons plonger au cœur d'une attaque baptisée « Attaque par voisin le plus proche ». C'est une attaque informatique sophistiquée révélée récemment par l'entreprise de sécurité Volaxity. Un récit fascinant qui nous montre à quel point la sécurité des systèmes numériques peut être fragile et que même les menaces apparemment abracadabrantesques sont désormais possibles.
Je pense qu'on va encore passer un bon moment. D'autres sujets, Winnie ?
Non, ce sera le seul. Car ça va déjà me prendre un bon moment. On traitera le sujet sur les voitures épileptiques dans le prochain épisode. Au passage, tu as changé quelque chose à nos voix ? Ça ne rend pas comme d'habitude dans mon cas.
Tu as lu fine, mon ami. Oui, j'ai changé le moteur de génération de nos voix, car certains auditeurs et auditrices m'ont fait la remarque qu'ils préféraient une émission plus vivante. Et tu sais qu'à FileSecu, on n'hésite pas. Quand les auditeurs me font des demandes, on met tout en œuvre pour les satisfaire. J'espère qu'ils apprécieront.
Et ça, c'est quoi ?
Oh, ça, c'est une ancienne caméra cachée que j'ai récupérée au fond d'un tiroir de mon bureau.
Cachée, pas tant que ça. On peut dire que c'est la tête d'une webcam. Mais à quoi va-t-elle servir ?
Je prévois de nous filmer pour ensuite mettre la vidéo sur Internet. Des auditeurs m'en ont demandé. Bon, revenons à nos moutons. L'attaque par voisin les plus proches. De quoi s'agit-il ?
Tout commence le 4 février 2022, juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Volaxity, une entreprise spécialisée dans la sécurité informatique, est alertée d'une intrusion chez l'un de ses clients, qu'on appellera Entreprise A. L'attaque semble menée par un acteur très motivé et expérimenté, utilisant une technique inédite, l'attaque par voisin le plus proche.
Ça semble très mystérieux.
Et ça l'est. Imagine que Volaxity, cette entreprise spécialisée dans la cybersécurité, a mis plus de 2 ans et demi pour avoir la vue d'ensemble de l'attaque.
2 ans et demi pour comprendre une attaque informatique, mais on peine à les croire. Bon, je te laisse reprendre ton récit qu'on comprenne pourquoi.
Donc, dès que Volaxity est informé de l'attaque le 4 février 2022, ses ingénieurs se mettent de suite à enquêter. L'alerte concerne l'écriture puis l'exécution d'un fichier batch dans un répertoire système partagé par les applicatiers. Immédiatement, les enquêteurs sont en alerte car ils comprennent que les pirates sont en train d'exporter des données sensibles de la base de registre Windows et de les compresser. Comme on le verra plus tard, c'est ce modus operandi précis qui permettra à Volaxity d'attribuer l'attaque.
Explique-nous quand même pourquoi ils prennent le temps de compresser les données.
Oh, ils compressent sur place les données collectées car il y en a beaucoup. Donc pour les exfiltrer rapidement, c'est plus facile si elles prennent peu de place.
Et en plus, j'imagine que des petits fichiers passent pour moins suspects que des très gros.
Oui, tu as raison. Même s'ils perdent un peu de temps pour compresser les données sur place, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Car le voyage sera long jusqu'à l'ordinateur des pirates, comme on va le voir.
Donc là, les ingénieurs de Volaxity ont découvert que les pirates exfiltraient des données sensibles. Mais on en sait plus sur ces données et sur l'entreprise A ?
Effectivement, le rapport de Volaxity ne divulgue rien sur l'identité ou le domaine d'expertise de l'entreprise A. On sait juste que cette entreprise a été visée car elle renfermait des données sur des individus ayant une expertise ou des projets actifs liés à l'Ukraine. En outre, les pirates agissent comme des fantômes. C'est comme s'ils étaient présents dans les locaux, mais ils n'y sont pas. Les ingénieurs décident alors de sortir l'artillerie lourde et de plonger dans les journaux de sécurité du serveur de l'entreprise A. En remontant le temps dans ces journaux, ils découvrent des événements suspects qui se sont déroulés juste avant et après la première intrusion. Les enquêteurs s'aperçoivent qu'un utilisateur non privilégié a accédé au serveur via une connexion de bureau à distance. Ensuite, un fichier nommé des fragments de serveur ZIP est apparu sur le système et a été décompressé. 2 autres fichiers, des fragments de serveur EXE et des fragments de serveurs PAT ont ensuite été créés et exécutés, menant finalement à l'exécution d'un script basé servertask.bat. Enfin, un fichier étrangement nommé wasegoose52.dll a été placé dans un dossier de Python, ce qui intrigue fortement les enquêteurs. Les ingénieurs de Volexity s'empressent alors de récupérer tous ces fichiers pour approfondir l'enquête. L'enquête avance bien. Les enquêteurs de Volexity semblent confiants grâce à ces fichiers qu'ils vont collecter. Ils vont pouvoir mieux comprendre l'attaque. Soudain, un écran noir. Le serveur s'éteint brutalement, coupant court à l'analyse des experts. Au redémarrage, les précieuses données volatiles ont disparu. Pire encore, tout ce que Volexity avait identifié, fichiers et dossiers, ont été effacés. Les pirates ont couvert leurs traces avec une précision redoutable. Pour cela, ils n'ont pas eu grand-chose à faire. Ils ont profité d'un utilitaire standard présent dans tous les ordinateurs Windows et appelé CypherXE. Comme son nom anglais lui laisse entendre, cet utilitaire a réécrit par-dessus une donnée effacée pour la rendre irrémédiablement inaccessible. L'enquête est alors dans une impasse, mais heureusement, les pirates font profil bas pendant ce temps.
Celui qui a éteint le serveur a dû bien entendre parler du pays. On sait qui c'est ?
Ce n'est pas dit dans le rapport, mais tout pointe vers les pirates. C'est une façon de brouiller les pistes.
Tu veux dire que les pirates ont fait exprès d'éteindre le système qui est piraté pour effacer leurs traces ? Mais ça paraît complètement inextricable à ce point. Comment les experts de Volexity ont-ils pu rebondir ?
Eh bien, avant l'arrêt du serveur, les ingénieurs ont pu quand même récupérer des données intéressantes. Parmi elles, ils ont pu identifier une adresse IP qui s'était connectée au serveur de l'entreprise A. Mais cette adresse restait inactive. Ça ne collait pas avec ce qui s'est passé. De plus, l'outil de sécurité réseau installé dans l'entreprise attaquée n'a enregistré aucune trace de l'intrusion. Donc, les pistes qui d'habitude éclairent l'enquête se sont révélées ici infructueuses.
La tâche s'est avérée plus difficile qu'attendue.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. L'affaire semblait s'enliser, puis soudainement, les pirates ont réapparu. Volexity a enfin compris que l'adresse IP en question provenait du réseau Wi-Fi de l'entreprise A, géré par un serveur DHCP. Malheureusement, l'analyse des journaux de ce serveur n'a rien révélé sur les adresses IP suspectes.
Attends, pour que tout le monde comprenne, un serveur DHCP est un programme qui attribue automatiquement une adresse IP à un appareil, comme un ordinateur ou un téléphone, lorsqu'il souhaite se connecter au réseau. C'est comme un numéro de téléphone pour chaque appareil, permettant aux différents appareils de communiquer entre eux. Donc, si je te suis bien, comme les pirates ont utilisé le réseau Wi-Fi de l'entreprise A pour se connecter à son serveur, les experts de Volexity pensaient que les journaux des connexions sur le serveur DHCP leur révéleraient quels appareils ils ont potentiellement qui s'est connecté au réseau au moment de l'attaque. C'est ça ?
Oui, c'est tout à fait ça. Et encore une fois, la piste se perdait dans le néant. Mais la persévérance de nos experts allait enfin porter ses fruits. En effet, nos enquêteurs allaient découvrir que l'entreprise attaquée était équipée d'un contrôleur de réseau sans fil. Ce dispositif centralisé gère tout le réseau Wi-Fi, enregistrant des informations précieuses sur les connexions, les utilisateurs authentifiés et la force du signal. Et là, cette fois, en analysant les journaux de ce contrôleur, Volexity pouvait enfin identifier l'adresse IP de l'attaquant liée à un compte utilisateur et une adresse MAC spécifique. Il pouvait remonter jusqu'aux journaux Radius, un système d'authentification, et y retrouver les mêmes informations datant de quelques semaines avant l'attaque, en janvier 2022. L'enquête révélait que le mot de passe initial du compte avait expiré, bloquant l'accès à l'attaquant. Mais celui-ci avait réussi à se reconnecter à nouveau en février avec un autre compte identifié sur le contrôleur sans fil. Les investigations de Volexity ont révélé une stratégie astucieuse de la part des pirates. Ils ont utilisé un service de connexion à distance réservé aux employés pour tester des combinaisons de mots de passe par force brute. La double authentification du service a empêché toute connexion effective, mais à ce moment-là, les pirates en avaient déjà suffisamment. Ils avaient déjà réussi à récupérer 3 identifiants et mots de passe valides. Ces informations précieuses leur ont ensuite permis de se connecter au réseau interne de l'entreprise en passant par le réseau Wi-Fi de l'entreprise A. qui était moins sécurisé.
Attends, tu veux dire que les pirates ont utilisé un service de l'entreprise A disponible sur Internet pour tester librement des mots de passe et finir par en trouver trois appartenant à des employés de l'entreprise? Et qu'ensuite, grâce à ces identifiants volés, ils ont pu se connecter au réseau Wi-Fi de l'entreprise A qui ne demandait pas de double authentification?
Et c'est là une des failles majeures de sécurité. Penser que quelqu'un qui se connecte au Wi-Fi est forcément sur place dans les locaux et a donc déjà badgé ou passé un portique de sécurité, donc est forcément légitime à se connecter au réseau d'entreprise sans avoir à valider son mot de passe par une double authentification.
Attends, tu es en train de nous dire que les pirates n'étaient pas physiquement sur place? Mais où se trouvaient-ils alors? Car il faut bien être proche d'un réseau Wi-Fi pour s'y connecter.
Excellente question. Et nos experts se sont posés exactement la même.
Mais alors, dis où? Les oligarques veulent savoir. Où étaient les pirates? Cachés dans un placard?
Oh, n'y est pas encore. Imagine les trésors d'ingéniosité dont ont dû faire preuve les ingénieurs de Volex City pour extrapoler un modus operandi à partir de maigres traces laissées par les attaquants. Alors je continue. En croisant les données du contrôleur sans fil avec un plan du bâtiment, Volex City a découvert que l'attaquant se connectait au même point d'accès, situé dans une salle de conférence, parfait des fenêtres donnant sur la ruche. L'attaque ne venait donc pas de l'intérieur. Pourrait-il s'agir d'une opération de proximité menée depuis la rue? Volex City était sur le point de découvrir la vérité.
Enfin, c'est l'arlésienne, cette histoire.
Et ce n'est pas encore fini, car alors que Volex City aidait l'entreprise A à se relever de l'attaque en apportant des améliorations au système de sécurité et de journalisation du réseau, en réinitialisant les mots de passe compromis, ils firent une découverte majeure. Malgré la réinitialisation des mots de passe, l'attaquant avait toujours accès au réseau Wi-Fi d'entreprise grâce à des identifiants valides. Mais cette fois, grâce aux nouveaux outils de surveillance mis en place, Volex City pouvait intercepter tout le trafic Wi-Fi et identifier le nom de l'ordinateur de l'attaquant ainsi que son domaine Active Directory. Et là, surprise, le domaine appartenait à une entreprise située sur le trottoir d'en face, l'entreprise P.
Attends, attends. Donc là, tu nous dis que les pirates sont d'abord connectés au réseau de l'entreprise B et que depuis ce réseau B, ils ont rejoint le réseau sans fil de l'entreprise A ciblée. Mais c'est impossible. Un réseau sans fil d'une entreprise n'accepte pas de demande de connexion provenant d'une autre entreprise.
Ce que tu dis est tout à fait juste. Sauf si le sans fil de l'entreprise A a une configuration trop laxiste.
Ah, ok, je vois. Les pirates ont profité d'une négligence dans la sécurité du sans-fil de l'entreprise A pour s'y connecter depuis l'entreprise voisine B. Donc, l'attaque venait de l'entreprise B.
Tu vas un peu vite en besogne, car c'était un leurre, une fausse piste pour dérouter les enquêteurs. Et les ingénieurs vont vite s'en apercevoir quand ils décident de contacter cette entreprise B voisine, qui coopère alors pleinement. Volex City découvre alors comment l'attaque a eu lieu. Les pirates avaient d'abord compromis un ordinateur de l'entreprise B via un accès du bureau à distance utilisant un compte administrateur piraté préalablement. Cet ordinateur, connecté à la fois au réseau filaire et au Wi-Fi, servait de passerelle vers le réseau de l'entreprise A, dont les pirates possédaient déjà les identifiants et mots de passe. En poursuivant leur enquête, les experts cyber ont découvert que les pirates avaient deux façons de se connecter au réseau interne de l'entreprise B. Ils pouvaient y accéder tout d'abord en utilisant des identifiants qui leur permettaient de se connecter au réseau privé virtuel de l'entreprise B, qui n'était pas pourvu de double authentification. Et ensuite, les pirates s'étaient préparés un autre accès en passant par les Wi-Fi d'une troisième âme, entreprise voisine C.
Ceinture et bretelles. Prévoyant ces pirates. Donc, pour atteindre les serveurs de l'entreprise A, les pirates sont passés par l'entreprise B voisine pour brouiller les pistes. Et comme ce n'était pas suffisant, ils sont passés par une troisième entreprise C pour se connecter à P. Et ensuite à A. Hyper organisés, ces pirates, quand même.
Tu ne sais pas si bien dire, et nos experts vont bientôt découvrir quels pirates de haut vol se cache derrière ce piratage.
Ah oui, grâce à l'entreprise ses voisines, ils vont pouvoir savoir qui s'est connecté à leur réseau et donc remonter aux pirates grâce à leur adresse IP.
Ça aurait pu se passer comme ça, mais malheureusement, l'entreprise C n'a pas souhaité coopérer. Cependant, Volaxity avait acquis une compréhension suffisante de l'attaque pour prodiguer des conseils à l'entreprise A et la protéger définitivement.
Donc, ça y est, l'histoire est finie?
Eh bien, c'est ce que croyaient nos experts cyber, car l'accès des pirates au Wi-Fi de l'entreprise A avait été coupé et on ne les voyait plus tenter de se connecter. Mais un mois plus tard, une nouvelle alerte retentissait, indiquant une nouvelle activité suspecte sur le réseau de l'entreprise A. En analysant cette activité, les experts cyber découvraient que de nouveau, les mêmes pirates s'étaient infiltrés sur le réseau interne de l'entreprise A.
Non mais c'est énorme cette histoire. On n'a pas affaire à des amateurs.
Mais là, cette fois, nos experts zabieri ont rapidement remonté le filon qui aboutissait au réseau Wi-Fi pour les invités. Tout le monde dans l'entreprise A pensait que ce réseau sans fil était complètement isolé du reste du réseau. Mais un système pouvait faire la passerelle entre ce réseau public non protégé et le réseau interne confidentiel de l'entreprise A. Les pirates utilisaient encore des outils Windows standard pour trouver des failles dans le réseau qu'ils souhaitaient attaquer. Et en poussant l'analyse encore plus loin, des experts cyber ont découvert que les pirates passaient par l'entreprise C pour se connecter à l'entreprise A. Et depuis lors, plus aucune activité liée à cette attaque par voisins proches n'a pu être observée.
Pas été voisine. Mais attends, on sait qui étaient ces pirates?
Oui, après avoir fouillé dans tous les indices numériques qu'ils avaient à l'OQI, les experts de Volexity ont pu identifier les coupables. Mais au départ, l'entreprise de cybersécurité était face à un vrai mystère. Impossible de savoir qui se cachait derrière cette intrusion. Les adresses IP utilisées par les pirates ne correspondaient à aucun acteur malveillant connu. Mais quand les ingénieurs de Volexity ont compris qui était ciblé dans l'entreprise A et les données visées, ils ont alors rapidement suspecté les Russes.
Et donc, quel groupe de cyberpirates russes était à la manœuvre?
Eh bien, figure-toi que la réponse n'a pas immédiatement fusé, car souviens-toi que l'attaque a débuté en janvier-février 2022. 2 ans plus tard, Volaxity n'était toujours pas en mesure d'attribuer précisément l'attaque à un acteur malveillant russe particulier. Mais il y a 9 mois, en avril dernier, Microsoft a publié un rapport de sécurité sur un groupe de pirates russes baptisé Blizzard de la Forêt. Forest Blizzard en anglais. Et le mode opératoire décrit par Microsoft dans cet article collait parfaitement aux actions des pirates que Volexity avait observées. Les noms de fichiers, les commandes utilisées, tout ce que Microsoft décrivait concordait. Ce fut un sacré soulagement pour Volexity qui pouvait enfin identifier les responsables. Le groupe russe qu'ils appelaient Macabre Mélèze, Ghost on Large en anglais.
Le même compte de pirate n'apparaît maintenant chez Microsoft et chez Volexity?
Oui, c'est fréquent. Chaque société de cybersécurité donne leur propre nom au groupe d'attaquants qu'elle rencontre. Et Volexity avait déjà croisé Macabre Mélèze ou Blizzard de Forêt sur d'autres champs de bataille mérite. Ce groupe de pirates russes est aussi connu sous le nom de Ours Raffiné, Fancyber, en version originale.
Non, attends, je parle bien du groupe Ours Raffiné? Mais ce sont de véritables légendes, des cybercombattants affiliés au service secret russe, le GRU. Pas des amateurs, et certainement pas à leur premier coup. Donc, si je résume, les pirates russes ont utilisé les entreprises voisines comme un tremplin pour infiltrer leur cible finale. Dans chaque entreprise affectée, ils ont utilisé les outils Windows et trouvé sur place pour se déplacer de proche en proche jusqu'à leur cible. Face à une telle attaque, les victimes n'ont presque aucune marge d'erreur en matière de sécurité. On dirait qu'ils étaient juste à côté, mais en réalité, ils étaient à des milliers de kilomètres.
Absolument. C'est la force de cette méthode. Elle combine les avantages d'un accès physique proche sans les risques liés à la présence sur place.
Mais ça soulève une question cruciale. Comment sécuriser nos réseaux Wi-Fi face à ce genre de menaces?
Eh oui, exactement. Volexity souligne qu'on a beaucoup progressé dans la sécurisation des accès Internet, avec la double authentification et d'autres mesures, mais on a peut-être négligé les réseaux Wi-Fi. Il faut désormais leur accorder la même attention qu'aux réseaux privés virtuels, par exemple, les fameux VPN. Volexity recommande plusieurs mesures pour se protéger. Surveiller les outils NETS, SH et CipherExe. Créer des règles de détection pour identifier l'exécution de fichiers depuis des emplacements inhabituels. Surveiller l'exfiltration des données via Internet. Séparer physiquement les réseaux sans fil et filaire. Renforcer la sécurité d'authentification du Wi-Fi avec une double authentification ou des certificats. Et enfin, journaliser tout ce qui se passe sur le réseau pour pouvoir ensuite l'analyser et détecter des actions suspectes.
Donc désormais, il faut traiter les réseaux Wi-Fi comme des portes d'entrée potentielles et mettre en place des mesures de sécurité robustes pour les protéger. Et si je te suis bien, la double authentification serait la panacée.
Oh, ce n'est pas si simple que ça.
Ah bon ? Je vais tout de même rappeler ce qu'est la double authentification, qui fait partie de l'authentification multifactorielle et qui est utilisée pour vérifier ton identité. Ainsi, on va te demander tout d'abord quelque chose que tu es normalement le seul à connaître, c'est-à-dire ton mot de passe. Puis, sur un appareil que normalement tu es le seul à pouvoir déverrouiller, on va te demander de confirmer une action. Alors, en quoi ce n'est pas si sûr que ça ?
Eh bien, imagine un pirate qui arrive ici à avoir ton mot de passe et qui essaie de se connecter au Wi-Fi de ton entreprise pendant que tu es occupé en réunion. Tu reçois bien une notification te demandant de confirmer et tu cliques sur « non » sans trop lire car tu es en réunion. Mais le pirate retente le coup et vlam, nouvelle notif. Et à chaque fois que tu cliques sur « non », le pirate retente instantanément le coup et tu reçois une nouvelle notif. Bref, tu t'en lasses et finis par cliquer sur « oui » pour faire cesser les notifications. Le pirate vient alors de pénétrer dans ton entreprise via ton compte. Il pourra alors y demeurer discrètement pendant des années, car il va ensuite installer une porte dérobée pour revenir quand il le voudra.
C'est catastrophique ! Comment un simple kit de lassitude met à mal toute la sécurité de l'entreprise pour des mois, voire des années ? Comment pourrait-on s'en protéger ?
Dans ce cas, on pourrait supprimer les notifications sonores pour ne pas se stresser, puis dès que possible, informer le service informatique de ces notifications. Le service informatique réinitialisera ton mot de passe et pourra mener l'enquête.
Et c'est la seule attaque possible à toute l'authentification ?
Oh que non ! Je t'en donne une dernière, mais il y en a à foison, car les pirates sont très créatifs. Les attaques par hameçonnage sont aussi très efficaces pour tromper l'utilisateur. Un jour où tu t'es détravaillé, par exemple, tu reçois un message sur ta messagerie qui reprend parfaitement les codes de ton entreprise et qui t'invite à te reconnecter pour activer le nouveau service de renforcement de la sécurité mis en place récemment. Un code QR t'est même proposé pour te réauthentifier rapidement. Tu es en télétravail, ça t'arrange, ce sera rapide. Tu prends alors ton téléphone perso pour utiliser le code QR et tu ne vérifies pas suffisamment l'adresse affichée car elle est très longue et ne s'affiche pas en entier. Tu rentres ton mot de passe et le code de vérification envoyé sur ton téléphone et tu es reconnecté.
Et je ne vois pas le problème ?
Eh oui, car le pirate a toute unité pour te tromper. L'email est un faux, te renvoyant sur un faux site ressemblant trait pour trait à celui de ton entreprise. Le site pirate fait l'intermédiaire entre toi et le vrai site de ton entreprise. Donc pour toi, c'est totalement transparent. Sauf que tout ce que tu tapes est vu par le pirate. Ton mot de passe et le code reçu sur ton téléphone. Avec ce sésame, il doit alors se connecter à sa guise en même temps que toi et aller placer sa porte dérobée pour revenir plus tard.
Ah oui, quand même. Et là, on peut s'en protéger ?
Oui, et une parade consiste à n'utiliser que son matériel d'entreprise pour faire tout ce qui a trait au travail, car ces appareils professionnels sont dotés de protections logicielles efficaces et coûteuses. Par exemple, là, si tu utilises ton téléphone pro pour suivre le code QR, le téléphone va de suite t'avertir du danger et refuser de suivre le lien. Donc le danger est de suite écarté.
Malheureusement, toutes les entreprises n'ont pas forcément les moyens de bien s'équiper comme ça. Mais une question me taraude. Pourquoi Internet est-il si risqué ? Pourquoi chaque protection peut être contournée?
Excellente question. Eh bien, rappelle-toi des débuts d'Internet. À l'origine, l'objectif des pionniers d'Internet était d'interconnecter des systèmes ensemble et c'était merveilleux de voir des ordinateurs communiquer d'un bout à l'autre du globe. Tout a été pensé pour un Internet ouvert et interconnecté. Donc, intrinsèquement, Internet n'a pas été conçu pour la sécurité et reste pour eux. Des mesures de sécurité sont par conséquent ajoutées au fur et à mesure pour adresser les vulnérabilités qui apparaissent. Mais il y a toujours des petits malins qui imaginent des contournements à ces protections.
Il faudrait rester très prudent alors. Eh bien, on a fait le tour de cette attaque par voisins proches. C'était passionnant, comme toujours. On se retrouve bientôt?
Tout à fait, ma chère Lia. On se retrouve en février pour parler automobile et crise d'épilepsie. On va encore bien s'amuser.
Je n'en doute pas. Alors, à tantôt, mon ami. Et peut-être qu'on se retrouvera en vidéo d'ici là. Scrutez bien les nouvelles, chers auditeurs. Et dites-nous si vous aimez nos nouvelles voix.
Il me tarde de nous voir en vidéo. À tantôt, Léa.